Bonjour à chacun et à chacune. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, comment je vous appelle, mes frères et sœurs, mes amis. D'accord. Ma femme et moi, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, Maïté ? Ah, d'accord. D'être avec vous, de célébrer le nom de Jésus, de retrouver notre chère sœur Michèle, qui a grandi depuis la première fois que j'avais vu, petite. Et puis, mon cher frère André. Frères et sœurs, je voudrais vous faire une petite confidence, sincèrement. C'est que depuis la dernière fois que Dieu a permis que nous venions, Dieu a mis sur mon cœur de prier tous les jours pour vous. Tous les jours. Et, sauf ce matin, j'ai été dirigé par autre chose. Mais j'ai dit au Seigneur, toi, je n'ai pas prié pour mes frères et sœurs, mais je sais que tu vas aller au-delà de toute chose. Et tu seras béni abondamment. Je vais vous poser une question. Vous est-il arrivé, depuis que vous êtes converti, d'être une fois béni ? Non mais regardez-moi. Oui ? Plusieurs fois béni ? Vous est-il arrivé une fois où vous avez dit, « Oh, ce jour-là, j'ai saisi, j'ai découvert enfin ce que je n'avais jamais trouvé. C'est merveilleux, je suis vainqueur. » Ça vous est déjà arrivé, ça ? Je vois une semaine formidable. Alors vous êtes rentré chez vous, gonflé à bloc, et le lendemain, il vous est arrivé une tuile. Mais alors, une tuile, celle-là, vous ne l'avez pas venue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une chose pareille ? Ça nous est arrivé à tous. Hein. Ça, on avait tout prévu, sauf ça. Eh bien, je voudrais vous proposer la réponse de Dieu quand ça se produit. Avec quatre mots. Quatre mots. Oubliez certainement les trois quarts de ma prédication, mais gardez au moins ces quatre mots que je vais vous donner de la part du Seigneur. Ces quatre mots sont tellement importants que lorsque Dieu a voulu que ça soit écrit dans la Bible, Dieu a dit à son prophète, écris ce que je vais te dire. Je vous donne le texte tout à l'heure. Écris ce que je vais te dire. Grave-le dans la pierre, afin qu'il ne soit jamais effacé, parce que ces quatre paroles sont valables éternellement. Quatre paroles qui viennent vers nous quand tout s'effondre, après un moment de bonheur et de joie, de convention, de rencontre fraternelle, d'amour merveilleux, une tuile. Alors, je voudrais vous proposer de découvrir ces quatre paroles, voulez-vous ? Je vous propose de prendre le livre du prophète Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. N'ayez pas peur, l'Ancien Testament contient le souffle de Dieu. Chapitre 30 d'Ésaïe, et nous allons retenir quelques petits versets. Au chapitre 30 et au verset 8, Ésaïe 30, verset 8, je vais vous lire ce qui est écrit. C'est Dieu qui parle à son prophète. Il lui dit, écoute, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin que ces choses subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Alors, verset 15, voilà les choses. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Arrêtons là notre lecture. Voilà, mes frères et sœurs, les quatre mots essentiels que Dieu veut qu'on garde dans notre vie de tous les jours. C'est le mot tranquillité, 1, 2, le mot repos, 3, le calme, le 4, la confiance. Tranquillité, repos, calme, confiance. Et si ces quatre mots, puisque Dieu dit que c'est valable tout le temps, n'est-ce pas, nous donnent la force de pouvoir tenir le coup, parce que vous savez, le Seigneur l'a dit, Jésus l'a dit, il a dit, vous savez, il tombe de l'eau sur les bons comme sur les mauvais, sur les justes comme sur les injustes, il y a des épreuves de tous côtés, mais ces quatre mots vont nous donner une telle force que par la grâce de Dieu, ces mots-là vont nous permettre de faire face à la vie, de ne pas fuir, de ne pas nous cacher, mais d'être pleinement vainqueur. Et je vais prendre un exemple. Cet exemple se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. C'est dans le Nouveau Testament et au verset 11. Alors c'est une nuit, vous allez voir, c'est une nuit où l'apôtre Paul a eu un moment formidable. Il a eu une visitation extraordinaire. Je lis ceci, Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11, dans le Nouveau Testament. Je lis. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit : Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, apparaît à Paul. Ça, c'est une expérience que je n'ai jamais eue. On ne peut pas dire que le Seigneur m'est apparu. Il a rempli mon cœur, il m'a sauvé, il s'est montré comme mon Seigneur, mais en vision, non. Paul a une vision, il voit Jésus. Un, il entend Jésus. Deux, et il découvre que Jésus a un plan pour lui. Il lui dit, écoute Paul, tu as été à Jérusalem, il y a maintenant, il faut que tu ailles à Rome. Merveilleux. Imaginez que ça vous arrive, une pareille visitation de la personne de Jésus. Mais si vous avez votre Bible ouverte sur le verset 11, baissez au verset 12. Le lendemain matin, quand le jour fut venu, le lendemain, donc, après cette belle visitation, cette bénédiction, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Mes frères et sœurs, mes chers amis, voilà une tuile qui n'était pas prévue. Le soir, pardon, je restais derrière le micro. Le soir, la nuit, il a une bénédiction formidable, il est visité par Jésus, il entend sa parole, et sa parole lui dit, allez, tire de l'avant, prends courage Paul, ça va aller. Et le lendemain, quand il ouvre sa fenêtre, il voit une quarantaine de barbus et chevelus, style Ayatollah comédie. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Qui ont dit, sous la fenêtre de Paul, on va voir ta peau. Voyez-vous la différence entre une nuit bénie par le Seigneur et le lendemain, la colère de fanatiques qui volent sa peau. Je ne sais pas si vous voyez, si vous pouvez mesurer le changement. Là-haut dans le ciel, il voit Jésus, et le lendemain, il se retrouve avec des gens qui le haïssent et qui volent tout simplement sa peau. Il a affronté la colère des hommes. Est-ce que cela vous est arrivé, mes frères et sœurs, d'affronter des fois certaines colères des hommes, pour une raison ou pour une autre? Après la bénédiction, il vient là une épreuve formidable. Il rencontre la colère. Et cela peut l'amener à dire ce que ça peut nous amener à dire. Seigneur, je comprends pas. Je fais ta volonté, je t'obéis, je crois, et il m'arrive une pareille difficulté. Oui, cela se produit. Jésus a dit, prenez courage, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En suivant Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous suivons un vainqueur. En suivant Satan, nous suivons un vaincu. Et moi, je préfère suivre le vainqueur que de suivre le vaincu. Vous êtes d'accord? Et l'Écriture nous dit que ces gens-là qui sont contre lui veulent sa mort. Alors comment Paul va se défendre? En prenant la première parole qui est importante pour nous. C'est dans la tranquillité. Mes frères et sœurs, si vous êtes aujourd'hui choqués, bousculés, peut-être même dans votre travail, par des patrons qui vous envolent, par des collègues qui vous font des pièges, par de la jalousie, bon, je sais bien qu'ici ça n'existe pas dans le monde, mais dans certaines villes ça existe la jalousie, la méchanceté, l'envie, t'as une belle bagnole, ben moi je voudrais bien avoir la même bagnole que toi, enfin bref. Quand vous êtes en face de colère, eh bien, ce qui est important, c'est d'employer la première parole que Dieu nous demande, c'est de rester tranquille. Notre force, mes frères et sœurs, n'est pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité. Et regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Paul a fait? Imaginez qu'il vous arrive ça. Il a écouté son neveu. Il a écouté un petit jeune. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de différence entre les vieux. Celui qui vous parle en a 85, ou 58 si vous voulez. Il n'y a plus de différence entre les vieux et les jeunes. L'Écriture le dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Plus de barrière. Alors il pense à son neveu. Et le neveu, qui voit ce qui se passe avec son oncle, va vers l'oncle et lui dit, tu vois tout ce qui se passe. Et l'oncle dit à son neveu, écoute, tu vas trouver le commissaire, tu vas lui dire ce qui se passe, et puis voilà. Vous remarquerez que Paul ne prend pas son téléphone, il n'y en avait pas à l'époque, pour téléphoner au pasteur en disant, ah, pasteur, si vous saviez ce qui m'arrive. Vous ne pouvez pas me comprendre, s'il n'y a pas de chrétien comme ça ici. En fait. Ils téléphonent à droite, à gauche. Ils envoient des textos. Si vous saviez ce qui m'arrive, oh là là, il faut prier plus longtemps. Je suis pour la prière, mais attendez. C'est dans la tranquillité qu'est notre force. Et l'apôtre Paul, tout apôtre Paul, qui aime la prière, qui prie en langue, qui aime le Saint-Esprit, dont Dieu fait des miracles extraordinaires, dont la personne de Jésus vient le visiter, Paul dit, va trouver le commissaire. Il reste tranquille. Et regardez ce qui s'est passé. Et c'est incroyable. Vous lirez chez vous, parce qu'on n'a pas le temps de tout citer, mais vous lirez dans le chapitre 23 des Actes des Apôtres, que le commissaire, le tribun, a pris une décision quand il a vu ça. 40 hommes qui volent la peau de l'apôtre Paul. Et vous savez ce qu'il a fait, le commissaire? Il a dit à 2 centeniers ceci. Prenez-moi 200 soldats. Il y a 40 bonhommes qui sont contre Paul. Prenez 200 soldats. Ajoutez 70 cavaliers. Ça fait combien, ça? 200 plus? Ça fait combien? 270, bravo. Et puis le commissaire, c'est écrit dans votre Bible, je n'invente rien. Le commissaire réfléchit, c'est nécessaire pour ces 40-là, il faut plus encore. Et il ajoute, et il dit, ajoutez-y 200 archers. Ça fait combien en tout? Oui, même au culte, il faut calculer. 470. Il y en a combien qui sont contre Paul? 40. Il y en a combien qui sont pour Paul? 470, ça fait presque 12 fois plus. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est capable, Dieu, de susciter des moyens de secours là où nous n'avons pas prévu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, c'est dans la tranquillité. Cette tranquillité qui sait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Et en face de mes adversaires, il dresse des canons? Non, il dresse une table. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mes frères et sœurs, c'est vrai que nous vivons actuellement, et dans notre pays et dans le monde, un monde de troubles, de violence. Que Dieu nous permette de saisir cette parole, de rester tranquille. Parce que, malgré tout, au-dessus de toutes choses, Dieu est sur son trône. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Il est sur son trône et il règne. Et parce qu'il règne, je lui fais confiance. L'Écriture nous montre que j'ai oublié quelque chose exprès. Vous n'avez pas remarqué ? Dieu insuscite, au travers de son commissaire, allez-y, aidez-moi encore, 200 soldats. Un point pour la droite. Ce n'est pas politique. Attention. Deuxièmement, plus 70, deux points pour la droite. Ouh là là, à ma droite, mais vous êtes à gauche. Ça. Plus 200 archers. Ah là, vous êtes vraiment, vous avez un imbattable qui vous tient ici. Bravo. Ça fait 470. Eh bien, regardez l'humour de Dieu. Et le commissaire ajoute au verset 23, et aussi deux chevaux pour Paul. Deux chevaux. Tiens, évidemment, parler de Citroën près de chez Renault, c'est embêtant. Deux chevaux. Dieu prend soin même que son apôtre n'ait pas à se fatiguer à marcher. Parce qu'il est écrit dans la Bible, si tu lui fais confiance, c'est dans la tranquillité qu'est ta force. Et non pas en nous abattant à droite et à gauche. Mes frères et sœurs, c'est là la victoire totale de la grâce du Dieu vivant et vrai. Restez tranquille, appuyés sur le Seigneur. Mon âme compte sur lui, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Premièrement, quand je suis agité, tourmenté, peut-être même c'est une lettre qui vous a annoncé que une menace de licenciement, il n'y a rien de plus terrible. Eh bien, savez-vous que Dieu est en haut courant, il peut venir à votre secours. Je veux rester tranquille. Deuxième parole. La deuxième parole que Dieu nous a donnée, c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera notre force. Le repos. Et là, acte chapitre 24, toujours après avoir eu la pensée d'aller à Rome par le Seigneur, il rencontre la colère des hommes, il triomphe par la tranquillité. Et là, regardez, au chapitre 24 et au verset 27 des actes, notez-le, il est écrit « Deux ans s'écoulèrent, et Félix eut pour successeur un nommé Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. » Après avoir eu une telle bénédiction qui lui a dit « Tu vas aller à Rome », il n'emmagasine que des pépins. Maintenant, il reste 2 ans en prison sans avoir rien mal fait. 2 ans sans rien faire. Mes frères et sœurs, ça s'appelle ce qu'on n'aime pas, nous les Français, perdre notre temps, gaspiller notre temps. 2 ans à l'époque, vous vous rendez compte ? 2 ans en prison en rien faire. 2 ans sans relation, 2 ans isolés de tout le monde, 2 ans avec la souffrance et la corruption autour de soi, 2 ans tout simplement parce que le Félix, le commissaire, en avait décidé ainsi. Pas de réponse, silence. Qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul, quand il se trouve dans une situation semblable ? Isolé, sans rien faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Bien, je vais vous le dire ce qu'il fait. Il prend sa plume et il écrit. Ah oui, il écrit. Et il écrit des épîtres. Et il en écrit 4. Il en écrit 13, je crois. Mais il en écrit 4. Et ces 4 épîtres sont des choses, des paroles formidables. Par exemple, il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Philippiens, il écrit aux Colossiens, etc., etc. Et entre nous, il écrit une épître fantastique que vous devez tous aimer, c'est l'épître aux Philippiens, dans lequel le mot « réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est écrit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Paul se trouve isolé, séparé, et pourtant, quand il écrit, il dit « réjouissez-vous ». Parce que, mes frères et sœurs, la joie de Dieu, c'est ce qui fait notre force. Quand on n'a pas de joie, quand on vit sans joie, quand tout devient un fardeau. La vie est épouvantable. On n'en peut plus. Mais ici, il est écrit, il a écrit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ça fait 2 ans de prison. À sa place, qu'est-ce que j'aurais écrit, moi ? Je vais vous le dire. Peut-être que j'aurais écrit, « Cher frère, si vous saviez dans quel état je suis, tout le monde m'a laissé tomber. Tous les curés et les pasteurs m'ont oublié. Et personne. Ça va bientôt faire 2 ans. Je vous le dis à tous, attristez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous riez, mais il aurait écrit ça. Moi, j'aurais écrit ça. Mais pas lui. Il dit, Satan est en train de faire perdre mon temps. Eh ben, je vais employer mon temps à faire du bien. Et si aujourd'hui, quand je lis Éphésiens, Colossiens, Philippiens, si ça me fait du bien, 20 des siècles après, c'est parce qu'un jour, dans la souffrance, un homme a eu le courage de se reposer sur son Dieu. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et le Dieu de Paul, il est ici ce matin. Mais chers frères, si vous perdez votre temps ou si vous avez l'impression que le temps passe vite, je vous le dis de la part du Seigneur, prenez du temps pour vous relier avec celui qui est capable de réjouir votre cœur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a un petit chant qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Est-ce que vous connaissez ça? Non, baissez pas la tête. Parce que quand on est triste, on baisse la tête. Chantez-le avec moi, voir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons. C'est bien. Seulement, j'en ai vu qui n'ont pas pu chanter, parce que peut-être vous ne connaissez pas, mais d'autres qui chantaient « Réjouissez-vous toujours ». Ça va pas, ça. Voyez-vous, il y a un décalage. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, jouissez, et j'ajoute, alléluia. Très bien. Première phrase. La tranquillité. Mes frères et sœurs, la tranquillité. Et la tranquillité nous amène au repos. Parce que quand on a de la paix, on a de la joie. La paix et la joie sont ensemble, et c'est le fruit de l'esprit. Bon, mais Paul, il s'en est pas sorti. Il y a 4 paroles. La troisième parole, pardon, l'Écriture nous dit, c'est dans la tranquillité, le repos et le bravo, le calme. Alors, il faut lire, et vous le lirez, on ne va pas avoir le temps, mais Actes 27, 2, ça vaut le coup. Ils prennent le bateau, parce qu'il faut qu'il aille à Rome, ils prennent le bateau. Oh, ils prennent le bateau. Aujourd'hui, combien de gens font des croisières, hein ? L'apôtre Paul, lui, a une croisière un peu spéciale. Mais enfin, bref, il prend le bateau avec pas mal de prisonniers de droit commun. Et ça commence bien, oui. Ça commence bien. Il est écrit « Un léger vent du sud vient ». Oh, c'est formidable. Tout se passe bien. Seulement, ça finit mal. D'un seul coup encore, le soleil se cache, la lune disparaît. Et la tempête, mais alors une tempête inimaginable, imprévue, Et l'Écriture nous dit dans le texte, que vous le lirez chez vous, mes frères et sœurs de Acte 27, qu'ils ont tous perdu l'espérance de s'en sortir. Tiens, tous perdus. Tous. Ça veut dire quoi, tous ? Alors, bien sûr, que les prisonniers de droit commun qui vont rencontrer l'empereur perdent l'espérance, d'accord ? Mais les chrétiens, il y en a au moins deux ou trois chrétiens. Tous perdus. Oui, mes frères et sœurs, on peut être chrétien et en prendre un sérieux coup. Mais vous ne pouvez pas me comprendre. Pourtant, ça arrive. On peut être enfant de Dieu et en prendre un bon coup. Tous perdirent espoir. Et au moment où ils perdent espoir, il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui s'appelle Jésus, qui est sur son trône. Et au moment où tous perdent espoir, Jésus envoie un ange dire à Paul, « Ne crains pas, Paul ! Il faut que tu ailles déjà à Rome. » La tempête, mes amis, le soleil caché, la lune éteinte, n'ont pas pu empêcher l'ange de Dieu de venir vers eux. Satan peut employer tout ce qu'il peut, il ne pourra jamais empêcher la grâce de Dieu d'agir. Un exemple, acte 12, l'apôtre Pierre est en prison, après pas qu'il va être tué, décapité, liquidé par Hérode. L'Église ne cesse de prier. C'est pas écrit ça. Et l'Écriture nous dit que l'apôtre Pierre était gardé par des soldats, par plusieurs compagnies de soldats. Et dans la nuit où il a failli être livré, Dieu envoya sa délivrance. Parce que dites-vous bien, mes frères et sœurs, que Satan peut faire peut-être beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas empêcher Dieu de bénir quand il veut bénir. Il ne peut pas empêcher Dieu de venir quand il veut venir. Il ne peut pas empêcher Dieu d'ouvrir les portes quand il veut les ouvrir. Il ne peut pas empêcher l'Église de prier. Et si vous êtes une Église qui prie, tôt ou tard, la victoire vous sera accordée. Parce que la prière, c'est l'ouverture vers le ciel. Et ça, Satan ne le supporte pas. Mais acte 12 le dit. Et ici, on a sur le texte, le vent souffle, la mer est déchaînée, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont même pas mangé, et pourtant ça n'empêche pas la bénédiction de Dieu d'agir. Parce qu'il est écrit dans la Bible, la tranquillité, le repos et le calme. Le calme, mes frères et sœurs, dans la tempête. Il faut que tu ailles à Rome. Rien ne peut empêcher la grâce de Dieu d'agir. Et Paul dira en pleine nuit, j'ai confiance en Dieu, il va nous arriver ce qui a été écrit. Et effectivement, ils sont arrivés sains et saufs sur une île qui s'appelle l'île de Malte. Or, l'île de Malte, ce n'était pas prévu dans le programme. Il est prévu qu'il aille à Jérusalem, qu'il est à Rome. Ils arrivent à l'île de Malte. Ce n'était pas prévu. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Une telle visitation de l'Esprit de Dieu que toute l'île a été visitée par la grâce de Dieu. Je vais vous en donner un exemple formidable en employant, et pour terminer, la quatrième parole. Tranquillité. Deuxième parole, repos. Troisième parole, calme. Et quatrième parole, confiance. Les frères et sœurs, ils arrivent sur l'île de Malte. Ils ne sont pas noyés. Bien sûr, ils ont perdu le bateau. Ça, je l'accorde. Mais ils ne sont pas noyés. Personne n'est touché. Personne n'est blessé. Ils s'en sont tous sortis par la grâce de Dieu. Et avec eux, nous aurions dit, alléluia. Très bien. Ils arrivent sur l'île de Malte. Et il ne fait pas chaud. Et comme les Maltais avaient un bon sentiment, ils ont dit, on va faire une bonne braise, on va se faire une bonne grillade avec des bonnes merguez. Et puis peut-être un bon couscous, comme là-bas dit. Hein ? Alors, ils vont faire une grillade, mais pour avoir du grillade, il faut du bois. Alors, tout le monde va chercher du bois. Et l'apôtre Paul, tout apôtre Paul qu'il est, ben, il fait comme tout le monde, il va chercher du bois pour faire du bon feu, pour faire de bonnes grillades. Mes amis, il n'y a qu'une seule vipère dans le coin. J'ai rien dit. Il n'y a qu'une seule vipère. Il y a plus de 350 personnes. Et dans ces 350, il y en a plus de 300 qui ne croient pas en Dieu. Il n'y a qu'une seule vipère. Et celui qui se la prend, c'est le croyant. Pas vrai ? Eh oui, c'est l'apôtre Paul. La vipère ne s'est pas trompée. Hein. Elle a été à l'endroit. Parce qu'à ce moment-là, quand Satan ne peut pas nous avoir dans la tranquillité, quand il ne peut pas nous avoir dans le repos, quand il ne peut pas nous avoir dans le calme, il met le paquet et il se dévoile. Il se présente tel qu'il est. Hideux. Serpent. La vipère a mordu l'apôtre. Et qu'est-ce que l'apôtre a fait ? Je vous disais, la quatrième parole, c'est une parole de confiance, oui. Il prend la vipère est dans sa main. Vous suivez ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il prend son portable ? Il n'a pas. Est-ce qu'il dit, y a-t-il un médecin parmi nous ? Est-ce que quelqu'un a une piqûre, s'il vous plaît ? Viens me faire mordre par un serpent. Est-ce qu'il fait ça ? Est-ce qu'il panique ? Est-ce qu'ils vont faire le 18 pour essayer de trouver s'il existe quand même un service d'urgence ? Non. Est-ce qu'on téléphone à droite, à gauche, au pasteur et dans le monde entier ? Toutes les églises, attendez, pas les mordus, pensez-vous. Paul secoue l'animal qui tombe dans le feu. Si bien que le serpent retourne dans son lieu, il sort du feu, il retourne dans le feu. Mes frères et sœurs, ne vous laissez jamais abattre par les accusations du diable. Juste une petite expérience que j'ai faite personnellement. Lorsque j'ai commencé dans le ministère, Satan un jour m'a dit, tu n'es pas digne, tu es un pécheur. Oui, je sais. Tu as fait ça. Et alors, tout ce que vous faisiez, tout ce que j'avais pu faire quand j'étais... Je n'ai pas tué, ni volé, ni rien du tout, mais enfin, il y avait des mauvaises choses dans ma vie, comme tout le monde. Il s'est mis à dévoiler mon passé. J'ai pleuré. J'étais en Seine-Maritime, c'était à Bouillaume, près de Rouen. Je me souviens encore, j'ai prié dans la chambre. Il dit, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que je te sers ? Je suis un pauvre type. Et le Seigneur a mis sa main sur moi. Il m'a dit, j'ai rien entendu, j'ai eu une pensée. Il m'a dit, Moïse, quand Satan te parle de ton passé, oui, quand Satan met ton passé en face, toi, dis à Satan, quel est ton avenir ? Et si tu demandes à Satan quel est son avenir, alors il va foutre le camp et jamais il va revenir, parce que son avenir, c'est le feu. C'est la perdition. Mais toi, c'est le ciel. Ainsi, mes frères et sœurs, quand vous êtes accusés, ou tourmentés, ou enfoncés, répondez par l'affirmatif, par la grâce de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Satan est un ennemi vaincu, et vous suivez un sauveur vainqueur. Terminons par cette parole. L'Écriture nous dit que le miracle s'est produit à Malte, et toute l'île a entendu l'évangile. Ce n'était pas prévu, mais c'est Dieu qui a gagné. Si c'était un match de foot entre Dieu et Satan, qui c'est qui aurait gagné ? Par combien ? 4-0. Et nous, les chrétiens, ce matin, on devrait dire, Seigneur, on a gagné. Parce que tu es vainqueur, et par ta grâce, tu nous rends vainqueur. Et l'Écriture nous dit, et ils arrivèrent à Rome, sains et saufs. Je me souviens, mes frères et sœurs, d'une expérience que nous avons faite avec le pasteur qui est près de Dieu maintenant, il s'appelait Roger Copin. Nous étions en Pologne, mais il y a très 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 longtemps. C'était tellement vieux, c'était du temps où Giscard était président français. Nous étions en Pologne, et juste avant de partir, quelqu'un nous a dénoncés comme étant des croyants. Et à cette époque, c'était c'était pas trop bien accepté par le régime à l'époque. Et on a été arrêtés, ce copain et moi. On nous a mis en garde à vue. On a stoppé l'avion, Air France, pendant au moins 5-6 heures. Et on nous a demandé de nous expliquer. On n'arrivait pas. Et par la grâce de Dieu, on est sorti. C'est là qu'il y a un vieux pasteur polonais qui est venu nous dire « Allez les gars, ne lâchez pas, vous allez vous en sortir vainqueurs. » Ça nous a fait du bien. Vous savez, cet homme, nous disait qu'il avait 6 enfants et qu'il avait été arrêté lui aussi, il y a longtemps. Et qu'on lui avait dit « On t'arrête non pas parce qu'on est contre Dieu, mais la Bible, c'est plein de mensonges. » C'est plein de mensonges. Ouais, plein de mensonges. Comment ? Oui, vous parlez du mensonge, vous enseignez aux Romains, vous enseignez le mensonge. Mais pourquoi ? Tenez, il est écrit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est écrit ? Le pasteur dit oui. Je dis oui. Ils boiront des breuvages mortels et cela ne fera point de mal. Est-ce que c'est écrit ? Oui. C'est pas vrai ? Vous ne ferez pas. Et le vieux pasteur nous a dit, et ils ont amené une petite fiole de poison. En disant, monsieur le pasteur, si ce texte est vrai, alors buvez. Et le pasteur nous a dit, à copain et à moi, qu'effectivement, tout en lui s'est mis à trembler. Mais il dit, par la grâce de Dieu, mon visage est resté solide et calme et confiant dans la paix. Ils ont amené un animal, je ne sais plus si c'était un chat ou un chien. Ils ont dit, tenez, regardez, monsieur le pasteur, il goûte là-dessus. L'animal est tombé, raide. Alors maintenant, buvez. Si votre Bible est si vraie que ça, buvez. Et le frère m'a dit ceci, j'ai prié dans mon cœur. Et Seigneur, je te remets ma femme et mes 6 enfants. Tu connais mes sentiments. Qu'il te soit fait selon ta volonté. C'est dans le calme. C'est lui qui a mis ces 4 paroles pour la première fois dans mon cœur. C'est dans le calme, dans la tranquillité et le repos. Et la confiance qui est la force. Alors il dit, j'ai pris, en tremblant, une goutte. J'ai avalé. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, plusieurs minutes. Et il dit, voyez-vous, ça fait déjà quelques années. Je suis encore là. Dieu s'est glorifié puissamment. Mes frères et sœurs, honorons Dieu. Bénissons Dieu et souvenons-nous que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alors, gardons 4 paroles, quelles qu'elles soient qui nous arrivent. Quelle est la parole que je dois dire ? Gardez dans mon cœur. La première, c'est dans le... tranquillité. Deuxième parole, repos. Troisième parole, et quatrième parole, là, confiance. Gardez ça. Oubliez tout. Tout ce que j'ai pu vous raconter, gardez ça, mes frères et sœurs. Et quoi que ce soit qui vous arrive demain, si ces paroles sont en vous, vous sortirez vainqueurs et vous bénirez et vous adorerez et vous célébrerez et vous honorerez le nom de Jésus. Et nous pouvons dire...